parole rurale, l'émission de reportage à la rencontre des paysans qui nous entourent,
ou le quotidien en milieu rural raconté par ceux qui le vivent.
Gérard, merci de nous accompagner à la pisciculture de la Canourgue où nous allons rencontrer Olivier au bord d'un torrent à peine sorti du Causse pour nous parler de son métier, de sa passion. Une virée oxygénée en eau froide auprès de magnifiques truites fario et de gigantesques arc-en-ciel. Beaucoup de soleil et de plaisir. Gérard, raconte-moi où on est.
Là, la pisciculture de Trémoulis, là, à la Canourgue.
À Canourgue, en Lozère.
En Lozère, hein. Pisciculture fédérale. Donc le poisson, il est fait uniquement pour faire les repeuplements de rivières. De là.
On arrive dans un lieu où il y a des bâtiments partout et nous rentrons dans le premier bâtiment.
Il y a le responsable.
Là. Ah ben voilà, formidable. On est dans un bâtiment avec des grandes bassines un peu partout, blanches. Qu'est-ce que vous faisiez là?
Là, je déboutais les œufs en fait, c'est-à-dire qu'ils sont œillés, si vous voulez. Donc,
alors, il faut tout nous expliquer parce qu'on n'y connaît rien.
Au niveau de la reproduction, du coup, on a mis les seaux à incuber à environ pendant une trentaine de jours. Donc après, là, on voit l'embryon qui commence à apparaître dans l'œuf. Et là, je dépote, c'est-à-dire que je brasse les œufs pour éliminer tous les mauvais, tous les blancs.
Vous pouvez nous montrer, là?
Oui.
Donc on se rapproche de trois seaux, deux seaux blancs, un seau... Ah, voilà.
Ouais, vous voyez.
On voit des œufs. Donc comment c'est ces œufs? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire?
Ben, vous voyez, à l'intérieur, on voit l'embryon, enfin le poisson, du coup. Les petits yeux, ça fait... On dit qu'ils sont au stade œillet, en fait.
Donc ça mesure combien ça?
Bon ben là vous voyez ça mesure, je sais pas, 3-4 mm.
Des petites billes roses.
Voilà, des petites billes roses.
Qui ont des yeux.
Voilà, c'est ça, pratiquement toutes. Hein. Normalement. Les mauvaises, ben, elles blanchissent, vous voyez.
Donc là vous enlevez les mauvaises.
Oui, le plus gros. Après on repasse avec une machine qui sert à trier les œufs. Et après on les trie, on les met dans des clayettes, dans les auges, avec de l'eau, jusqu'à éclosion. Donc une semaine après ce stade. Donc en gros, voilà. Et après, du coup, il y a un alevin qui apparaît, qui sort de la coquille, et après ça grossit, stade alevin, truitel, voilà. Et après on les sort à l'extérieur, dans les bassins, et ainsi de suite.
Voir que la nature a bien fait les choses, parce que au niveau du stade de l'éclosion, c'est par rapport à la température de l'eau.
Oui, c'est ça.
C'est incroyable. Donc c'est 410 degrés jour, hein.
Oui, à l'éclosion, oui.
Ouais, à l'éclosion.
Donc nous, on les dépote à environ 330 degrés jour. Là, elle est en gros à 10 degrés en moyenne, donc ça fait 33 jours. On compte la température de l'eau pour une journée. Donc nous, comme elle est à 10 degrés en moyenne, on compte une journée 10 degrés. Et donc 33 jours à 10 degrés, 330 degrés jour. Et là, je peux dépoter mes œufs, ils seront œillés, en fait. Il y aura l'embryon à l'intérieur. Et 10 jours, un peu moins de 10 jours, ils seront à 410, 420 degrés,
voilà.
Et ils vont éclore.
Tu le mets dans une eau à 15 degrés, qu'est-ce qui se passe?
Ça accélère, du coup, ça va plus vite.
On peut faire des truites à 25 degrés?
Ah non, ça c'est pas possible. En général, l'hiver, nous on est sur une résurgence, c'est-à-dire que l'eau sort de terre. Donc elle est à température à peu près constante à cette saison, elle est à 9-10 degrés. Et par contre, si vous avez une pisciculture qui est sur une rivière qui descend de l'Aubrac, comme Gérard avait,
voilà.
L'eau l'hiver, elle devait être à...
Tous les jours, j'avais un calendrier et je marquais la température de l'eau pour savoir après à quel moment je pouvais les manipuler.
Parce qu'avant ce stade, il ne faut pas les toucher, on les tue. Puis arc-en-ciel, c'est plus tôt en fait. L'éclosion est à 380 degrés jour, et le dépotage, mais nous on n'effectue pas la reproduction de cet arc-en-ciel. On fait que la truite fario et le dépotage, donc ça doit être 280.
Comment on récupère des œufs?
On garde des femelles et des mâles dans des bassins, des géniteurs, et on effectue un contrôle de maturité à partir de l'automne. Toutes les semaines, on passe tout notre poisson un par un sur une table de contrôle de maturité entre deux bassins, et on regarde s'il y a des femelles qui sont matures ou pas. Si elles sont matures, on les transporte dans des bassins spéciaux, là, qui sont à l'extérieur, et le lendemain ou le surlendemain, on les fait pondre. On garde des femelles et des mâles, du coup.
Comment on voit qu'une femelle est mature?
Ben vous avez, quand vous pressez au niveau du ventre, vous avez les œufs qui sortent assez facilement. Sinon, si c'est dur, ça sort pas. Enfin, si c'est pas prêt, ça sort pas. Il ne faut pas forcer.
Donc tous les jours, vous sortez les femelles de l'eau, vous leur appuyez sur
jours,
le ventre?
Toutes les semaines.
Toutes les semaines?
Ouais.
Et elles le vivent comment?
Ah, ben, elles sont manipulées, donc forcément, il y a de la perte. C'est la seule solution. On commence doucement. Là, on avait 100 femelles le premier jour. Enfin, la première semaine qu'on a attaqué. Et là, cette semaine, on avait 530. Et là, ça, normalement, ça va être la plus grosse ponte là, qu'on a effectuée cette semaine. Et là, ça va être dégressif jusqu'à début janvier. Quoi.
Et elles pondent toute l'année ou...
Non. À l'automne, à partir de... Nous, elles attaquent, on va dire, en gros, début novembre, la première quinzaine de novembre, une fois par an. Quand on recueille une bassine avec 30 femelles, avec les œufs de 30 femelles, on féconde avec 5 mâles. Mais il y en a largement assez, ouais. Enfin, il faut qu'ils soient fluents, bien sûr, mais...
Et une femelle fait environ 2000 œufs par kilo. Par kilo, en plus, 2000 œufs.
Par kilo, ouais. Si, voilà, si on n'a pas des poissons qui font 1 kilo, c'est beaucoup moins. Nous, sur les poissons que l'on a, on a des poissons qui font environ 500 grammes en moyenne. Donc on a un peu moins souvent, 700-800 œufs.
Et sur 1000 œufs, il y en a combien qui vont donner des petites prutelles?
On a des pontes où ça va être joli, je dirais 70-80%.
Et alors là, le seau, là, c'est un seau de 10 litres, il est rempli à quoi, un tiers? Un peu plus, un tiers?
Non, il est rempli pratiquement aux trois quarts, celui-ci.
D'accord. Après, et là, il y a combien de truites qui ont pondu là?
Dans celui-là, il doit y en avoir une cinquantaine.
La maman des poissons, elle est bien gentille.
Et là-dedans, il y a des truites mâles et des truites femelles.
Voilà.
En devenir.
C'est ça.
Et vous ne pouvez pas les repérer.
Ah non, à ce stade, non. C'est compliqué.
Elles ne se disputent pas?
Non, ça va. Là, elles sont calmes encore.
À chaque manipulation, il les anesthésie.
Oui.
Ou sinon, tu arriverais jamais.
Comment vous les anesthésiez?
On les endort avec un produit du genre, c'est de la tricaïne.
C'est un anesthésique?
Oui. D'accord. C'est ça, on met 50 litres d'eau et on met 40 ml de produit dans notre bac, dans des gros bacs comme ça là-bas. On les anesthésie, donc elles s'endorment et après on les fait passer sur la table de ponte que vous voyez là-bas. Et on les strip et on les remet à se réveiller dans ces zones-là. Et après on les reprend pour les remettre dans le bassin là-bas où on les touchera plus après.
Et elles ne changent pas de comportement après cette manipulation un peu bizarre?
Non, elles ne changent pas de comportement, mais disons que c'est une sacrée... Sur deux jours de semaine, ça fait une sacrée manipulation pour les poissons, quoi.
Ah oui.
On les prend, on les sort d'abord au contrôle maturité, ensuite on les reprend pour les faire fondre, on les endort, on les strip, on les remet à s'éveiller, on les restocke ensuite dans les bassins. C'est pour ça qu'on a de la perte sur les bassins. Ça peut varier de 20 à 50%, on a eu, ou même plus, jusqu'à 70%.
Et ça lui fait mal?
Alors là, je peux pas vous dire. Je sais pas. On m'a demandé.
Il n'y a pas de syndicat de truitelles ou de truites femelles? Pour ceux qui n'y connaissent rien, c'est quoi la différence entre une arc-en-ciel et une fario?
Eh bien, une truite fario, c'est la truite autochtone, en fait, des rivières au départ en France et en Europe. Et la truite arc-en-ciel a été importée des États-Unis, début du 20e siècle, on va dire. Et après, la colonise. Normalement, la truite arc-en-ciel n'est pas censée se reproduire naturellement dans le milieu, sauf rares exceptions. Dans les Pyrénées, là, au Bouillouse, lac des Bouillouses. Et apparemment, on a eu des remontées comme quoi, dans certains cours d'eau, ça peut arriver que ça se reproduise tout seul. Mais c'est plutôt très rare, quoi.
C'est pour ça que les particuliers font pratiquement que l'arc-en-ciel. Ouais. Une truite relativement plus robuste.
Ouais. Moins fragile.
Et moins fragile. Et le croissant, c'est plus rapide.
Ah oui, beaucoup plus rapide.
Nous, il nous faut une truite portion arc-en-ciel, on met, on va dire, 16 mois, quoi. Ouais. Mais dans des élevages, ils mettent 10 mois, des gros élevages intensifs. Et la fario, il nous faut pour faire le double, quoi, en gros. 32 mois pour faire une truite qui fait 250 grammes, quoi.
Et alors, ça vit combien de temps, une truite?
Bon, je pense, dans le milieu naturel, une dizaine d'années, je pense, un peu plus, peut-être. Mais c'est vraiment des spécimens très rares, quoi. Ouais.
Quand j'étais petit, mon grand-oncle faisait lire la truite du Truel, une truite énorme qui faisait 1m20, qui faisait rêver tout le monde.
Ah oui, c'est possible. Mais
ça arrive, ça des
ça peut arriver, des spécimens, en fonction du milieu, bien sûr. Hein, des fois dans des lacs ou des rivières, des grandes rivières, mais ça fait quand même énorme, 1m20. Ouais. Oula, ben on voit les alevins en résorption de truite arc-en-ciel. Truite arc-en-ciel, pardon.
Donc ce sont des bacs.
C'est une petite clé, on appelle ça des clayettes en fait, il y a une circulation d'eau qui se fait, il y a des. Vous voyez une grille là où le courant passe, et là elles sont dedans, elles nagent, et elles se nourrissent de cette poche de la réserve vitelline du coup. Voilà. Et après, une fois que cette poche est résorbée, là il faut qu'on commence à les alimenter. Ça ressemble à un petit poisson avec une grande poche sous le ventre, avec un œil assez important, je trouve. Et ça nage pas trop en fait, c'est assez. C'est pas en pleine eau encore. Ils sont posés sur le fond de la clayette.
Et donc on voit, il y a une petite queue qui apparaît derrière, ouais, et une grosse poche devant. Hein.
Voilà. Là, ça fait 1,5 cm, quoi, 2 cm, je pense. Là, on va les laisser 10-12 jours à peu près. Et après, là, quand elles ont commencé à bien monter, on va les sortir et on va les nourrir après dans les auges. En pleine eau, après, petit à petit, elles vont monter dans la couche.
Comment vous les nourrissez?
Et après, on achète de l'aliment à un fournisseur. Des farines de poisson, des céréales, des huiles de poisson. Maintenant, de nouveau, un peu de farine animale. Ça. Nous, non, on n'a pas de label bio. En gros, si vous voulez, on est à 2 euros le kilo, quoi, à peu près. Et sachant qu'on passe sur l'année, on fait 3 commandes à 10 tonnes, quoi. 30 tonnes d'aliments. Ouais. Donc c'est un poste énorme sur la pisciculture. Ça et la masse salariale, c'est les plus gros postes. Notre vocation, c'est le repeuplement, en fait. Des cours d'eau de Lozère au départ. Et les lacs aussi, les rivières et les lacs. Et on essaye de faire du poisson de qualité. Du coup, nous, on a une petite pisciculture. Hein. On est à 17 tonnes en tonnage à peu près. Donc on a arrêté pour ça. Quoi. Donc on a quand même du poisson qui est en bonne intégrité physique, quoi. Qui a des nageoires quand même, plus ou moins. Parce qu'on a des élevages où c'est tout rogné. Enfin, il y a beaucoup de poissons malades. Voilà. Donc nous, on essaye de faire de la qualité avec des poissons... des cours d'eau de Lozère. On les croise chaque année avec des. En fait, quand on fait la reproduction des fario, on essaye d'aller pêcher des mâles dans les rivières. Pendant la ponte, justement, là, on l'a fait il n'y a pas longtemps, dans les cours d'eau de Lozère et de croiser le sang, en fait. Comme ça, on arrive à obtenir une souche qui se rapproche de plus en plus. On va pas dire sauvage totalement, mais bon, le plus possible.
Et alors, pourquoi repeupler ça se reproduit pas suffisamment spontanément?
Ça dépend des cours d'eau. Il y a des rivières, oui, effectivement, ça se reproduit. Il n'y a pas besoin d'introduire de poissons ou d'œufs ou d'alevins, mais il y en a d'autres, il y a besoin de soutenir un peu les populations en place, quoi. Notamment dû à la pollution ou autre. S'il y a beaucoup de sécheresse et d'inondations, faudra forcément par la suite peut-être introduire des poissons dans certains cours d'eau. Après, il faudra se poser la question aussi, s'il y a beaucoup de sécheresse récurrente d'une année sur l'autre, est-ce qu'il faudra en mettre, quoi. Parce que s'ils meurent chaque année, ça vaudra peut-être plus le coup qu'il y ait de la truite fario dans les cours d'eau. Si la température de l'eau augmente, notamment, avec les températures et les canicules qu'on connaît...
Et alors après, on va peupler nos rivières avec quels poissons? Si elles sont à 25, 26, 27...
Du black bass, des carnassiers. Donc voilà, notre but, c'est ça, c'est de satisfaire les pêcheurs.
Plus que satisfaire la nature?
Ah si, aussi, mais il faut essayer de trouver le juste milieu. Au lycée piscicole également, il y a un atelier de transformation. Du coup, ils font de la truite fumée, de la truite portion éviscérée, des filets de truite aussi frais. Enfin, ils font pas mal de choses. Sûrement, la plupart du temps, ils viennent de Norvège ou d'élevage. Ouais. Il n'y a pas assez rare le saumon sauvage, on en trouve très peu. Quoi.
Des grades de caisse, hein. C'est là qu'ils font les élevages de saumon. Hein. C'est des tonnes et des tonnes d'aliments qu'ils distribuent là-dedans. C'est vrai que des fois, même, il y a un impact. Ils commencent à s'apercevoir qu'il y a un impact au niveau des rochers. Le fond de l'eau, là-bas, il meurt. Hein. C'est des tonnes et des tonnes. C'est énorme, énorme.
Des déchets de quoi?
Des poissons. Ah, ok. Donc, il y a tellement de densité, ils sont tellement serrés et tellement de tonnage. Détruit le fond, c'est mort, il n'y a plus rien.
Truite, ça se traite par antibiotiques?
Ça peut se traiter par antibiotiques, ouais.
C'est quoi les maladies de la truite?
Furonculose, qu'est-ce qu'on a là? La SHV, ça c'est des maladies virales, NPI, SHV. Et ensuite, la furonculose, sa prolégnose, c'est la mousse. C'est les mâles qui l'attrapent en période de reproduction parce qu'ils se frottent, en fait. Du coup, ça fait un champignon. C'est la période la plus critique pour eux, la reproduction, parce qu'ils mettent beaucoup d'énergie. S'il n'y a pas la place dans le milieu pour accueillir une certaine population de poissons, ils vont chercher les affluents. Sur le Lot, par exemple, on a le Doulou, on a d'autres petits ruisseaux, ben, l'Urune, Saint-Saturnin. Les poissons vont remonter, se disperser. Les poissons ont tendance à remonter à l'automne, là, souvent il y a des pluies au mois de novembre, et ça les déclenche, en fait, et ils remontent les cours d'eau. Une montée des eaux, les poissons s'adaptent. Hein. Ils se mettent déjà sur les bords, sur les grandes rivières, sous les berges, dans les blocs rocheux, au fond, il y a moins de courant. Et après, c'est sûr, par contre, que s'il y a des grosses crues, là, courant décembre, quand la reproduction a eu lieu, ça peut être dévastateur sur certaines pontes. Il y a eu des années où on n'a pas eu de reproduction à cause de ça. S'il y a trop de courant, hein, tous les œufs, tout est embarqué. Novembre, décembre, janvier.
Et donc les petits là que l'on voit devant nous, là, qui font 1 cm, comment ils font dans la rivière? Ils se mettent où?
Ben, ils sont dans les graviers, en fait. La truite pond dans un substrat, en fait, de granulométrie assez faible pour pouvoir enfouir les œufs et les protéger. Le mâle vient par-dessus déposer la laitance. Une fois que la poche, la réserve vitelline est résorbée, ils essayent de se nourrir avec dans la rivière. C'est ça qui est délicat. On disait qu'il y en avait une ou deux truites de 25 cm pour 1000 œufs.
Le soir tombait de tout son poids au-dessus de la rivière. Je rangeais mes cannes on ne voyait plus que du feu. Je l'ai vu s'approcher la tête ailleurs dans ses prières. Il m'a semblé voir trop briller ses yeux. Je lui ai dit, si tu pleures pour un garçon, tu seras pas la dernière. Souvent les poissons sont bien plus affectueux. Va faire un petit tour, respire le grand air. Après je te parlerai de l'amour, si je me souviens un peu. C'est ce que je voudrais savoir. Et j'ai dit, viens t'asseoir dans la cabane du pêcheur. C'est un mauvais rêve, oublie-le. Tes rêves sont toujours trop clairs, trop noirs. Alors viens faire toi-même le mélange des couleurs sur les murs de la cabane du pêcheur. Viens t'asseoir. Si loin on voit les lumières, la terre peut faire tous les bruits qu'elle veut. Y'a sûrement quelqu'un qui écoute là-haut dans l'univers. Peut-être tu demandes plus qu'il ne peut. Savoir. Et j'ai dit, viens t'asseoir dans la cabane du pêcheur. C'est un mauvais rêve, oublie-le. Tes rêves sont toujours trop clairs ou trop noirs. Alors viens faire toi-même le mélange des couleurs sur les murs de la cabane du pêcheur. Viens t'asseoir.
C'est contraignant parce qu'il faut être là tout le temps. Donc même les week-ends il faut travailler. Comme un, oui c'est pareil, comme un élevage de vaches ou d'agneaux, de brebis, ouais. Il faut être là constamment, surveiller, être attentif à tout ce qu'on fait. Enfin, faut, ah, mais c'est sûr que plus on a du poisson serré, en densité, plus ça va être susceptible d'attraper des maladies. Quoi. Forcément. Comme tout. Hein, si on... Donc après c'est pour ça que nous on essaye de ce côté-là d'avoir moins de densité pour pouvoir moins traiter notamment. après, parce que faut dire que les traitements, c'est pas donné non plus, quoi. Donc il vaut mieux éviter. D'un côté financier, c'est bien, et puis même pour la nature, je pense que c'est mieux de pas traiter.
Alors en plus, les impacts agricoles, quand il faut du défrichage, du labour ou autre, une crue derrière.
Et on n'a jamais fait d'analyser l'eau pour retrouver les pesticides, mais ben moi, à mon avis, je pense que c'est une incidence. Notamment en période de grosses pluies, les premières grosses pluies, je pense que ça arrive dans la rivière. Avec le bassin versant de l'Urune, là, sur le Causse, même par rapport au golfe. Produits qu'ils utilisent pour traiter les grines, ils en utilisent, contre les vers, ainsi de suite, ça doit se retrouver dans l'eau.
Faire des illusions. Hein. La relève en pisciculteur, ça se finit. Ça. Il n'y aura pas beaucoup de gens passionnés pour faire ça.
Faut tomber sur les bonnes personnes. Mais. Moi, au départ, je pensais pas faire ça non plus, mais comme métier. Même si j'ai fait une formation là-dedans, mais j'étais pas certain de travailler en pisciculture. Et finalement, ça s'est fait un petit peu comme ça, au hasard. Ça a été l'opportunité, on va dire. Puis finalement, voilà, ça fait 20 ans que j'y suis, donc ça continue. Ça me convient, ouais. Moi j'aime bien. Hein. Je trouve ça intéressant, ouais. Là, on est sur les plateformes Géniteur et Fario.
Des grands bassins qui mesurent combien à peu près?
Je pense 25 mètres, je me rappelle plus exactement. Ils font 170 mètres cubes à peu près.
Oh là là, c'est de la pétruite là.
Ouais, mais ça, c'est celles qui vont pondre la semaine prochaine. C'est les géniteurs du coup.
Et là, tu les récupères comment là?
Ben, on baisse le niveau de l'eau avec un système de vannage à la sortie. Du coup, on enlève nos vannes, le bassin baisse et on les récupère avec une épuisette. On les fait passer sur la table de contrôle de maturité. Et c'est là qu'on détermine si elles sont prêtes à pondre ou pas.
Et là, tu arrives à voir juste en les observant si elles sont bien pleines ou pas?
Ça, j'arrive à voir que c'est un mâle. Après, les bien pleines, celle-là, elle est pas trop en forme. Mais bon, c'est pas le bon exemple. Après, celles-ci sont quand même assez vives. On a du mal à les observer. Ben, elles se frottent sur le sol et du coup, elles enlèvent le mucus qu'elles ont sur le corps. Et ça permet aux parasites de s'infiltrer. Et du coup, ça provoque ces champignons, en fait. On les traite de temps en temps après qu'on les ait manipulés. Et ensuite, quand on les restocke dans l'autre bassin là-bas, après les avoir fait pondre, on les traite aussi une fois.
Après, il y a l'entretien du site aussi. La tonte, il y a beaucoup de travail hors manipulation de poissons.
Après, moins on touche les poissons, mieux on se porte et mieux eux aussi. Nourris deux fois par jour, là.
Oh là, on est passé sur un autre volume. Hein.
Là, voilà, ce sont les...
Ça, c'est de l'arc-en-ciel, mais
ouais,
c'est énorme.
De l'arc-en-ciel, ouais.
C'est des poissons. Combien, là?
Ben, y a des poissons de 3 kg, on va dire entre 2 et 3 kg et demi, quoi.
Wow.
Et celle-ci... Et
alors, à la mouche, ça se fait, ça?
Ah oui, ça peut, oui. Là, nous, on les lâche dans le lac de Villefort, le lac de Moulinet, Ganivet, dans nos étangs de pêche aussi, le Bonnecombe et l'étang de Barandon, qui appartiennent à...
Ça au bout de la
carte. Oui, c'est assez c'est sportif, là, parce que ça tire beaucoup, une truite de cette taille-là, oui.
Mais quelle est la meilleure chair à manger?
Mon avis, pour différencier les deux, c'est assez compliqué. Mais déjà, après, sur un gros poisson et un petit, c'est dur de faire la différence. Mais celle-là, on n'a eu que des retours... Certaines personnes qui en ont mangé nous ont dit que du bien, quoi. Ouais, y a une grosse fario là qu'on a gardée.
Ah ouais, énorme.
Ouais. On s'amuse à les garder d'une année sur l'autre, des fois on les remet dans le bassin.
Et quand elles sont plus grosses, est-ce qu'elles font plus d'œufs?
Oui, bien sûr. Hein. Mais ouais, du coup, c'est en fonction du poids au kilo, comme disait Gérard. C'est environ 2000-2500 œufs au kilo. Donc si elles font 2 kilos, elles en font 5000, quoi. Après, plus c'est vieux, moins c'est, on va dire... Il y a un certain âge, voilà, c'est dégressif, après. Un gros poisson, c'est pas forcément les meilleurs producteurs. Après, c'est comme tout, quoi. Quand c'est vieux et que c'est trop gros, nous, on les fait reproduire en leur troisième année, là, les farios.
Et comment ça se passe dans la communauté, là? Elles se parlent? Il y a une leaderuse ou c'est comme les brebis?
Je pense pas qu'elles communiquent. Il n'y a pas de poisson leader, je pense pas non plus.
Non. C'est chacun son truc.
Chacun son truc, ouais. Chacun sa nourriture, chacun... Et on les nourrit du coup.
Il y a rien qu'au niveau de la reproduction, au moment des frais.
Oui.
Mais parce que ça, c'est inné, c'est... Voilà, il faut remonter, il faut aller pondre.
Mais sinon, là, il n'y a pas de relation entre les parents et les enfants?
Non, pas du tout, ils se reproduisent entre eux. Il n'y a pas de...
Il n'y a pas de sentiment, quoi.
Ben, moi, je peux pas vous répondre sur la question, après.
Oh là là, mais c'est impressionnant.
Ouais, ça fait des jolis poissons. Hein.
Et alors, si je tombe dans le bassin, elle me croque?
Non, c'est une légende. Mais c'est vrai que quand on leur donne à manger, on voit ça vient en surface, c'est impressionnant, quoi.
Ça
éclabousse, ouais. C'est sûr que ça... Mais après, si on tombe dans le bassin, non. Bon, c'est pas des piranhas. Hein. Un filtre à tambour là-bas qui récupère toutes les eaux de la pisciculture et ça filtre tout ce qui est boue, limon, algues, ainsi de suite. Et c'est mis dans un décanteur. Et ensuite, le décanteur est vidé par un agriculteur qui épanse ça dans ses champs. Le gros, oui, reste sur la... dans le décanteur.
Après, je vous cache pas que ça peut partir un petit peu au-dessus. Oui, oui, mais bon, le plus gros, vraiment, c'est reste là.
Vous avez combien de bassins là? C'est énorme, je trouve.
Ben là, on en a 12 grands. Ensuite, 10 bassins arc-en-ciel portion. Là, il y en a 8. Donc, ouais, on a 18-30 là, bassins. Après, on a 4 de grossissement en haut. Plus après les auges, il y en a 24. Et les vagues subcarrées, 24 aussi. Et après, je vous cache pas qu'on sera embêté non plus pour en faire beaucoup plus, parce que vu que les débits d'eau sont très faibles maintenant de plus en plus, il y a moins d'eau qu'avant, hein, je pense, d'après les relevés qu'on a eu, tout ça. Avant, ils se souciaient moins de... Et le réchauffement. Ouais, ouais. Bah, encore, nous, comme c'est la résurgence, ça reste raisonnable, malgré tout, même l'été, oui, au plus chaud.
En 10 ans, ça se voyait pas, ça prend une ampleur. On parlerait réchauffement de la planète, mais...
C'est vrai.
Nous, on le retrouve.
Sur les cours 2, ouais, on le retrouve. Ouais. Mais même au niveau pluviométrie, on voit que l'année dernière, on a eu 800, à peu près 850 mm, alors qu'avant, on avait 1200, 1300 mm par an. Cette année, c'est remonté, là, il a bien plu. Ouais. On doit être à 1100, 1150. Mais ça, on voit que ça diminue quoi, d'année en année. Encore, on a ce système de recyclage d'eau, c'est-à-dire que de ces bassins, toute l'eau qui arrive à la sortie, on peut la redistribuer dans les regards. Et la faire passer pour le... Parce que si on avait que de la première eau derrière, on n'arriverait pas à faire tout ça.
Eh oui.
Il n'y aurait pas assez d'eau.
Les agriculteurs sur le COS, ils tournent en moyenne 50-60 mètres. Eh oui. Le minimum. Hein. Alors qu'à l'époque, on ne voyait pas des vaches au braque sur le COS. Hein. Eh oui. En sachant que ça boit 80 litres ou 90 litres par jour. On le retrouve après sur les cours d'eau. Hein.
Ouais. Ça, quand il y a plus de monde dans les villages, tout ça, c'est sûr que ça a un impact.
Une conservation. Et là-bas, vous avez le camion de livraison?
C'est ça, tout
et
à fait.
Comment ça se transporte des truites?
Eh bien, on a des cuves avec des tuyaux à l'intérieur qui diffusent de l'oxygène, avec des bouteilles. Et après, voilà, il y a un certain tonnage à respecter, c'est-à-dire par cuve. Hein, il ne faut pas en mettre trop non plus, c'est un certain stade, ça. Suivant la durée du trajet, tout ça, c'est compliqué, ça peut mourir facilement.
Du poisson à jeune?
Du poisson à jeune, aussi, oui.
Pour qu'elle se porte mieux le transport?
Au moins un jour avant, voire deux. Ouais. Et ensuite, si on respecte à peu près le tonnage par cuve, en fonction de la durée du trajet, tout ça, normalement, il n'y a pas de souci pour après lâcher ses poissons dans différents milieux. Quoi. Avant l'ouverture de la pêche, là, c'est un peu le gros boom, quoi, parce qu'on a toutes les APPMA qui nous demandent un peu de poissons, du coup, il faut pas... qu'on aille un peu partout, et après on a des livraisons régulières sur les lacs, hein, et l'été sur nos étangs de pêche, où on fait payer avec...
Et ça marche très bien.
Oui, ça marche.
Ça plaît aux pêcheurs, ça.
Oui, certaines catégories de pêcheurs, ou de touristes, qui voilà.
Ou quelques retraités.
Ou quelques retraités aussi.
Comme moi, j'arrive plus à marcher.
Oui, ou des personnes qui ont du mal à aller au bord des cours d'eau, voilà, ils arrivent à attraper leurs poissons relativement facilement, et c'est de la truite arc-en-ciel,
et de la pêche tout. Familiale, c'est
ouais, sympa. Ouais. Mais en Aveyron, ils font pareil, mais par contre, avec de la fario, du coup, sur le lac des Picades, d'Arbre à Melou.
Ah, c'est saumon de fontaine.
Saumon de fontaine maintenant. Oui, ouais. Il n'y a plus de fario.
Ouais. Non, la fario
que saumon de fontaine, oui. Ils avaient du mal.
Il est plus résistant.
Ouais. Et nous, c'est que de la truite arc-en-ciel. Après, ça pourrait être peut-être évolué, je sais pas. On verra.
Ouais. Merci Olivier et Gérard pour cette virée glaciale, mais remplie d'arc-en-ciel. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour trois échanges absolument passionnants entre Christian, paysan éleveur de la vallée du Dourdou, Élodie, anthropologue, et Rebecca, agronome, toutes les deux en stage dans la vallée pour plusieurs mois, pour nous aider à réfléchir au rapport entre paysans, rapport à la terre, rapport entre nouveaux arrivants et paysans, et à l'évolution des pratiques. Un temps vraiment très riche qui vous sera proposé sur trois émissions que nous vous invitons vraiment à déguster. Si vous vous plaisez à écouter cette émission, si vous avez d'autres idées, des personnes à rencontrer, si vous voulez nous faire des commentaires, n'hésitez pas, nous avons besoin de vos retours. Nous passons beaucoup de temps à nous déplacer dans le département, à enregistrer, à monter les émissions. Et pour nous motiver davantage à poursuivre, merci de nous écrire. Parole au pluriel, rural au pluriel, @gmail.com. Avec Chantal, Christian et Pascal, nous aurons plaisir à vous répondre.